Le 9 novembre 2021, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais il fait une déclaration qui a l'effet d'une bombe. Il veut relancer la construction des réacteurs nucléaires en France. Ce serait du jamais vu depuis des décennies. Depuis, il a confirmé son intention de construire entre 6 et 14 nouveaux réacteurs EPR. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut avoir quelques chiffres en tête. En France, le nucléaire représente 67% de notre production d'électricité. En comparaison, l'hydraulique, c'est 13%, l'éolien, à peine 8%, et le solaire, moins de 5%. Actuellement, il y a 56 réacteurs sur notre sol. La France possède le deuxième parc mondial, derrière les États-Unis. Mais nos centrales sont vieilles. Elles ont 36 ans en moyenne. Au cœur de la campagne, il y a donc deux questions centrales. Faut-il remplacer, ou fermer, ce parc nucléaire vieillissant ? Et comment respecter notre engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Bienvenue dans notre playlist spéciale nucléaire. En France, notre parc nucléaire a été construit entre les années 1977 et 1987. Le calcul est simple. En 2050, quand la France devra avoir atteint la neutralité carbone, il sera en grande partie obsolète. Il y a donc urgence à trancher. C'est la première préconisation de Pierre Moscovici, le président d'une juridiction indépendante, la Cour des comptes.
Si vous voulez construire des éoliennes, qu'elles soient marines ou terrestres, si vous voulez construire des centrales nucléaires, c'est des choix à 15 ans. Et donc, il faut renouveler notre parc électrique et donc faire les grands choix maintenant. C'est un débat qui est très sensible, c'est un débat qui est multifactoriel. Ouais, j'évoquais les risques, j'évoquais le changement climatique, j'évoque aussi la dimension financière et la dimension technologique.
Mais vous allez plus loin, par exemple, sur le nucléaire. D'abord, vous dites, la Cour des comptes dit qu'il faut un équilibre tout à fait normal entre le développement des énergies renouvelables et le nucléaire, mais sur les réacteurs, entre 25 et 30 réacteurs, il faudrait
ce que nous disons,
ce nombre-là.
Ça, c'est un scénario qui est possible. Et ce que nous disons, c'est qu'il nous paraît très compliqué à la fois de vouloir décarboner notre production énergétique, et je pense que c'est un objectif souhaitable, donc il faut décarboner, mais on ne peut pas décarboner sans le nucléaire. Ça, c'est une caractéristique française qui tient l'état de notre part.
Quasiment tout le monde le dit, hein, dans les candidats et la campagne qui a démarré. Quasiment, certains.
Pas tout le monde. Oui, et encore une fois, notre rôle à nous, c'est pas de trancher entre les candidats, c'est de donner un certain nombre de faits. Vous parliez des fake news.
25 à 30 nucléaires.
Encore une fois, ce chiffre est une hypothèse. C'est un scénario. Il y en a d'autres qui sont possibles. Il faut trouver les bons équilibres. Mais ce que nous disons, et ça, c'est le message principal, oui, il y a des choix à faire. Oui, il faut les faire maintenant. Oui, notre indépendance énergétique, et notamment électrique, est indispensable et il est très compliqué, de décarboner sans le nucléaire en France.
Si le futur président de la République choisit de construire des centrales nucléaires, il pourra s'appuyer sur une nouvelle technologie, les SMR, pour Small Modular Reactor. En français, on pourrait dire « petit réacteur modulaire ». Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Voici l'éclairage du physicien grec de Temerman.
En France, à l'heure actuelle, on a des centrales nucléaires ou des réacteurs qui font entre 900 MW et 1400 MW, donc des unités assez grosses. L'EPR, qui est en construction à Flamanville, a une puissance de 1650 MW, donc encore quelque chose de plus gros. Ce qu'on appelle les mini-réacteurs ou des SMR, ce qui signifie petits réacteurs modulaires, sont des réacteurs dont la taille pourrait être entre 10 et une centaine de MW, donc qui ont vocation à être beaucoup plus petits, mais beaucoup plus flexibles et surtout de pouvoir simplifier la construction, de standardiser un maximum et de diminuer les coûts.
D'accord. Ça fournit l'électricité à combien de foyers ?
Alors, c'est un peu compliqué. Ça dépend de la puissance, comme je viens de le dire, puisque vous pouvez avoir dans la SMR des unités qui vont faire une dizaine de mégawatts, qui vont être utilisées pour des toutes petites villes ou des sites industriels, jusqu'à des unités d'une centaine de mégawatts. En France, on a un concept qui s'appelle New World qui fait 300 mégawatts. Et donc là, vous êtes sur une ville de taille moyenne.
L'avantage avec le nucléaire, c'est que ça ne rejette pas de CO2, donc ça ne change rien pour le climat. En revanche, on ne sait pas que faire des déchets. On multiplierait les centrales nucléaires, ça ne peut pas poser un problème de sécurité ?
Alors, en fait, justement, les petits réacteurs sont plus sûrs parce qu'ils génèrent moins de puissance et donc c'est plus facile de mettre en place des systèmes de sûreté, ce qu'on appelle passifs, donc de faire en sorte que la puissance dissipée soit beaucoup plus faible, ce qui limite les risques de problèmes. Après, en termes de puissance, vous allez utiliser la même quantité d'uranium. Donc, c'est-à-dire que pour une puissance donnée, vous allez peut-être avoir plus de réacteurs, mais la quantité d'uranium reste la même. Donc, ça ne change pas grand-chose pour les déchets. Au contraire, il y a certains réacteurs qui permettent même de brûler un petit peu mieux l'uranium que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Ce sont des centrales qui seraient accolées aux centrales actuelles ou ce seraient des centrales mobiles ?
Alors, l'idée souvent des petits réacteurs, c'est qu'ils puissent être installés dans des sites plus ou moins isolés, raccordés à des villes qui ne sont pas très faciles à raccorder à des gros réacteurs. Alors, en France, on peut se poser un petit peu la question d'où on les installerait, puisqu'on a plutôt des grosses capacités de production. Mais on peut imaginer, par exemple, assez facilement remplacer les centrales à charbon dans des pays qui ont installé du charbon il y a 40-50 ans. Les unités font en général 300 à 400 mégawatts, donc on est dans la bonne taille pour remplacer ce genre d'unité.
Qu'il s'agisse de SMR ou des nouveaux réacteurs EPR, investir dans le nucléaire coûte forcément cher. On sait par exemple que la facture du site de Flamanville, qui n'est toujours pas en service, s'est considérablement envolée. Alors, qui va payer les futurs réacteurs s'ils voient le jour? Et combien vont-ils coûter? C'est ce que vous détaille maintenant Maud Descamps.
En ce qui concerne les SMR, c'est-à-dire les petits réacteurs modulaires, leur coût devrait être nettement moins élevé que celui des grosses centrales, puisque l'ambition est de pouvoir les construire en série, en usine, avec un design simplifié. La construction sera donc moins coûteuse, aux alentours d'1 milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais sensiblement moins que les 25 milliards d'euros de la centrale nouvelle génération d'Hinkley Point en Angleterre. C'est ce qu'on appelle un EPR, comme la centrale de Flamanville. Cette dernière, toujours en construction, présente une facture aux alentours de 19 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, au lieu des 3,3 milliards annoncés initialement. Mais le coût des EPR deuxième génération, qui devrait être construit dans les prochaines années en France, sera moins élevé. L'idée est de les construire par paire et donc de mutualiser certains coûts. Selon le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, il faudra compter pour 6 nouveaux EPR environ 50 milliards d'euros. Reste à trouver un moyen de les financer.
Pour résumer, il faut compter 50 milliards d'euros, au bas mot, pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Et il faudrait aussi prévoir d'investir 1 milliard pour les petites centrales SMR. Ces chiffres peuvent donner le tournis. Mais pour François Bayrou, qui est commissaire au plan et qui est aussi un des soutiens d'Emmanuel Macron, il n'y a pas à hésiter. Cette facture, c'est le prix à payer, car la question du nucléaire est centrale pour les années à venir.
Je n'ai aucun doute, moi, qu'il va falloir investir, prendre la décision d'investir puissamment dans le renouvellement du parc de centrales électriques nucléaires
en France. Avant la livraison de l'EPR de Flamanville, c'est-à-dire qu'il faut construire de nouveaux EPR avant cette date-là.
Moi, je pense que cette question énergétique sera une question centrale dans les débats de l'élection présidentielle et que nécessairement, des décisions majeures seront à prendre dans les mois qui suivront l'élection présidentielle. Et il n'y a pas de moyen de conserver une électricité à un prix abordable, qui soit fiable, à laquelle on puisse faire appel, qui permette de répondre à l'extension considérable des besoins d'électricité en mobilité comme dans la maison, ou dans les voitures comme dans la maison, s'il n'y a pas de production d'électricité.
Donc vous m'avez répondu.
Pour compliquer encore un peu les choses, l'Europe s'invite aussi dans ce débat avec ce qu'on appelle la taxonomie. Bruxelles a décidé d'accorder à l'énergie nucléaire un label vert, ce qui revient à la considérer comme vertueuse pour le climat. Du moins, de manière temporaire. Comme l'explique Élise Dangean.
Pour Bruxelles, les énergies renouvelables, jusqu'ici seules détentrices de ce label vert, restent la priorité en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Mais voilà, à elles seules, elles ne pourront pas répondre à la demande croissante d'électricité qui pourrait doubler dans les 30 prochaines années. D'où la nécessité de favoriser aussi l'investissement dans des moyens stables comme le nucléaire. Ce label va donc permettre de mobiliser des fonds privés, de quoi faciliter le financement de nouveaux réacteurs. Et c'est capital pour la France, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux EPR d'ici à 2050. Mais attention, cela ne doit être qu'une phase de transition, dit Bruxelles, qui met plusieurs conditions à ce label, avec notamment une limitation dans le temps et l'obligation de recourir aux meilleures technologies disponibles. Les projets de construction de nouvelles centrales devront par exemple avoir obtenu un permis de construire avant 2045.
Il y a donc la facture qu'il va falloir payer pendant des années pour construire de nouvelles centrales. Et puis, il y a la facture d'énergie que vous recevez chez vous chaque mois. Depuis le 1er janvier, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 59% en moyenne pour 5 millions de Français. Selon Éric Zemmour, le rempart face à cette envolée des prix, c'est bien le nucléaire et non les énergies renouvelables.
Parce que cette facture d'énergie qui augmente, on le sait depuis des mois. Et pourquoi elle augmente ? Elle augmente parce que le prix du gaz augmente. Et pourquoi on consomme plus de gaz ? Parce que les Allemands ont arrêté le nucléaire et qu'ils ont mis des éoliennes partout. Et que les éoliennes, on le sait, c'est une énergie intermittente qui a besoin, pas pilotable comme on dit dans leur jargon, et qui a besoin donc d'énergie de substitution, le charbon ou le gaz. Merci les Allemands et bravo les anti-nucléaires.
Dans la campagne présidentielle, face aux candidats qui veulent investir dans le nucléaire, il y a ceux qui proposent au contraire d'en sortir. Jean-Luc Mélenchon plaide par exemple pour du 100% renouvelable. C'était initialement dès 2030, mais il a depuis revu son calendrier. Pour le coordinateur de son parti, Adrien Quatennens, on peut en tout cas se passer du nucléaire et des énergies fossiles, à condition d'en faire le choix politique.
Nous arrivons à une période où, vous le savez, nos centrales sont en fin de vie. Donc la question qui nous est posée, avec des centrales en fin de vie, c'est est-ce qu'on remet le paquet là-dedans ? Est-ce qu'on relance le nucléaire ? Ça va coûter presque 150 milliards, tout coût compris. Ou est-ce qu'à l'inverse, on met le paquet dans les énergies renouvelables ? Sonia Mabrouk, moi j'entends les arguments de mes contradicteurs sur la question nucléaire. Ils me disent, le nucléaire, ça a l'avantage de ne pas être intermittent. Pardon, mais l'été dernier...
Décarboné, pas intermittent, alors, excellence française, souveraineté.
Prenons les arguments un par un. Intermittent. L'été dernier, en plus de la maintenance, il y a eu de la sécheresse. Il y avait des cours d'eau qui étaient à sec et on a dû stopper des réacteurs pour cette question. Question de la décarbonation, moi je veux bien, mais si on regarde les projections en matière de climat, Sonia Mabrouk, vous avez par exemple en 2050, sous l'effet de la montée du niveau des mers, vous avez la centrale de Gravelines qui est sous la flotte, celle du Blayais aussi. Donc moi je dis une chose pour résumer mon propos, on ne remplacera pas 100% de la production nucléaire par 100% de renouvelables, mais nous fixons l'objectif de 100% de renouvelables.
Quand,
et pour cela,
2030, impossible. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit une fois, on va conclure, dites-moi juste pour quand.
Eh bien, c'est très simple. Le scénario de Négawatt, que nous reprenons à notre compte, disait en effet 2035, il y a quelques années. Mais ils viennent de publier leurs résultats. Ils disent, on a perdu du temps. Donc, comme on a perdu du temps, il faut 10 ans de plus. Donc, simplement, 100% renouvelable. Et la clé pour ça, c'est aussi la sobriété énergétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se passer et du nucléaire et des énergies fossiles.
Merci, Adrien Quatennens.
À la condition d'en faire le choix politique.
Merci à vous.
Sortir totalement du nucléaire, à moyen terme, c'est donc le credo des insoumis, mais aussi des écologistes. De son côté, Anne Hidalgo prône un mix énergétique. Mais la candidate du Parti Socialiste refuse d'envisager la construction de nouvelles centrales, comme le souhaite Emmanuel Macron.
C'est une erreur et vous verrez que dans mon programme, je considère que le nucléaire est une énergie de transition, mais qui n'est pas une énergie sur laquelle nous devons construire de nouvelles centrales. Mais en revanche, nous devons vraiment nous préoccuper de ce qu'on appelle le grand carénage, puisqu'il va falloir quand même prolonger un certain nombre de centrales.
C'est-à-dire, il faut les prolonger.
Et sortir du nucléaire aussi vite que possible en misant sur les énergies renouvelables.
Miser sur les énergies renouvelables, c'est également le discours des communistes. Sauf que leur candidat, Fabien Roussel, se distingue. Il est le seul à gauche à dire que le nucléaire reste indispensable. Pour lui, il faut même construire de nouveaux réacteurs.
Je propose la construction de 6 centrales et pas sur des terres nouvelles et d'aller embêter des gens dans une campagne.
Alors ça, c'est ce qui vous différencie moi, de vos camarades candidats de gauche.
Hein. Ah, mais de toute la gauche,
je suis
le seul. 6 centrales, mais... Et c'est une différence que j'ai aussi avec M. Emmanuel Macron, c'est que moi je souhaite aussi sortir l'électricité du marché et faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté dans la fixation des tarifs. Et que comme nous sommes aujourd'hui producteurs d'énergie nucléaire et que ça coûte moins cher que le gaz, le charbon qui en plus sont polluants, eh bien, faisons en sorte de fixer nous-mêmes les tarifs avec un service public de l'électricité. Et c'est la meilleure garantie pour aider les ménages, mais aussi les entreprises.
Avant d'aller dans l'isoloir pour voter, faisons un détour et prenons le temps de regarder la question du nucléaire d'un peu plus loin. Aux États-Unis, par exemple, des réacteurs de nouvelle génération viennent d'être lancés. D'après Anissem Bida, ils ont une particularité qui pourrait changer la donne, ils arrivent à recycler leurs déchets.
Du nucléaire, allez, on va dire, un peu plus propre, puisqu'il va se nourrir de déchets radioactifs. Aujourd'hui, on les enfouit. Et bien, demain, on les utilisera comme carburant à la place de l'uranium. Donc, ça laisse imaginer un recyclage infini du combustible nucléaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour mémoire, c'est le même principe que nos réacteurs Phoenix, Super Phoenix et du projet Astrid. Vous vous en souvenez peut-être, hein, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont coûté très très cher et qu'ils ont été abandonnés brutalement après des décennies de recherche. Et bien, les États-Unis, eux, vont jusqu'au modèle commercial, la construction d'un premier réacteur démarre dans le Wyoming et c'est la start-up TerraPower qui est aux manettes, une société qui a été co-créée par Bill Gates.
Bon, la France a arrêté cette technologie, devait bien y avoir une raison.
En fait, c'est une technologie qui a été surtout victime de la mauvaise image du nucléaire parce qu'après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, on a préféré miser sur le renouvelable et arrêter les frais, surtout après les déboires de l'EPR de Flamanville. Mais l'urgence climatique a changé la donne, les besoins en électricité vont augmenter de façon exponentielle et comme l'éolien et le solaire ne produisent que par intermittent, eh bien la transition prendra du temps, donc on se dit pourquoi pas regarder à nouveau vers le nucléaire.
Bon, des centrales qui recyclent les déchets, une sorte de nucléaire circulaire, c'est bien, mais on parle quand même de déchets nucléaires, radioactifs. J'imagine qu'il y a de nouveaux risques avec ces centrales.
Ah oui, il y a notamment de gros risques d'incendie en cas de fuite, car ce sont des centrales qui sont refroidies au sel, au sodium liquide, c'est un produit qui s'enflamme spontanément au contact de l'air quand il est très chaud. Mais l'avantage, c'est que ce refroidissement se fait à l'air libre, donc le cœur ne pourra jamais fondre comme pour la catastrophe de Fukushima. Donc pour résumer, il y a des dangers, mais ils sont moindres qu'avec les centrales traditionnelles. Et c'est peut-être pourquoi les parlementaires s'inquiètent que la France perde des compétences dans la recherche nucléaire. Il ne faudrait pas finir par aller chercher chez les Américains ce qu'on a abandonné il y a quelques années.
Pour les opposants au nucléaire, comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, le principal danger des centrales reste la radioactivité des déchets. Les capacités de stockage vont arriver à saturation en France d'ici 2030. Alors que faire ? Réponse avec Philippe Noreux, directeur d'Orano, qui faisait partie du groupe Areva.
En tant qu'ingénieur, nous, on doit offrir des solutions. Et ensuite, il y a des choix de société. Mmh. C'est-à-dire que les déchets aujourd'hui sont entreposés à La Hague, en sécurité. Oui. On fait confiance à la société. Ils peuvent rester plus d'un siècle. Pour des durées plus longues, l'essentiel des pays dans le monde ont choisi un stockage géologique et dans des roches qui ont plusieurs millions d'années.
C'est le projet qu'on mène d'ailleurs à Bure, hein, cette idée de site Cigéo. L'idée étant de recourir aussi à cet enfouissement sous la terre dans des zones géologiques propices à cela. Hein.
Alors, ce n'est pas un enfouissement, c'est un stockage qui est réversible. C'est-à-dire que pendant un siècle, on peut aller, en cas de problème, rechercher ces déchets et s'assurer qu'ils reviennent au bout du compte à la radioactivité naturelle. Mmh. Mais ce qui est important pour nous, c'est de laisser le choix à la société, le choix de la surface ou de la géologie.
Alors, l'idéal, ce serait une technologie qui permettrait de réduire la radioactivité des déchets sans qu'on ait à les stocker sur ces échelles de temps très longues. Où en est la recherche aujourd'hui, Philippe Knorr ? Est-ce que vous pensez, vous, de votre vivant, voir une technologie de ce genre apparaître ?
Aujourd'hui, on sait scientifiquement détruire les déchets nucléaires à vie longue et les ramener vers un siècle, deux ou trois siècles de durée de vie qui sont les déchets à vie courte. Et 300 ans, c'est quelque chose que la société peut envisager facilement puisqu'on a plusieurs millénaires de civilisation. Donc ça fonctionne scientifiquement. L'enjeu sur lequel on travaille, toute la filière française, mais également avec des partenaires internationaux aux États-Unis et ailleurs, c'est faire en sorte que ces solutions scientifiques, elles soient industrielles. Elles consistent à casser les atomes à durée de vie longue en atomes plus petits à durée de vie plus courte.
Mais ça, on ne sait pas le faire encore.
On ne sait pas le faire à l'échelle industrielle.
Prenons maintenant un peu de hauteur. Bertrand Piccard a fait le tour du monde en avion solaire. Pour l'aventurier suisse, sortir du nucléaire, ce n'est pas une utopie. Au contraire, il est même trop tard pour construire de nouvelles centrales. Selon le président de la Fondation Solar Impulse, il existe des solutions alternatives.
C'est vrai que les centrales actuelles produisent de l'énergie décarbonée. Elles n'en produisent pas assez
vu qu'une grande partie de notre société est toujours au pétrole et pas encore à l'électrique. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas très malin de fermer des centrales nucléaires aujourd'hui, mais si on veut en construire des nouvelles, c'est pas très malin non plus, parce qu'elles seront prêtes beaucoup trop tard.
C'est-à-dire, par exemple, les petites centrales, les mini-centrales nucléaires dont parle le président de la République française, et qui vont être lancées désormais, c'est trop tard pour vous? L'échéance est trop tardive?
Tous les rapports du GIEC montrent qu'on a 10 ans pour décarboner la moitié de notre société, sinon on n'y arrivera pas. Ces centrales, elles arriveront bien après les 10 ans. On voit bien à quel point c'est compliqué de lancer une nouvelle technologie. Alors, utilisons les technologies qui existent. Il y en a deux, hein. Principalement, c'est les énergies renouvelables. Le solaire et le vent, aujourd'hui, sont beaucoup moins chers pour faire de l'électricité que le nucléaire, le pétrole, le gaz et le charbon. Et puis l'autre chose, c'est l'efficience énergétique. C'est-à-dire que les prix montent parce qu'on consomme trop. Mm-hmm. Aujourd'hui, on gaspille 75% de l'énergie qui est produite. Quand je dis qu'on la gaspille, c'est pas qu'on l'utilise de manière excessive, c'est qu'elle est perdue par des systèmes de chauffage, des systèmes d'éclairage, des systèmes industriels, des maisons mal isolées. Elle est simplement perdue par inefficience. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que si vous voulez baisser la facture énergétique des gens les plus démunis, eh bien, il faut leur permettre d'en gaspiller moins. Donc vraiment, moi, ce qui me heurte quand je vois tous ces débats, c'est que tout le monde parle des problèmes et on ne parle pas assez des solutions. Et les solutions existent. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Réaliste ». C'est que souvent, c'est juste du bon sens. C'est pas qu'il faut développer des nouvelles technologies incroyables, high-tech, etc., qui n'existent pas encore. Non. Avec ma fondation, on en a identifié 1300 qui existent aujourd'hui, qui sont financièrement rentables, qui protègent l'environnement et qui permettent de lutter contre les changements climatiques.
Vous l'aurez compris, dans cette course à l'Élysée, il y a d'un côté les candidats qui prônent l'abandon total du nucléaire pour privilégier les énergies renouvelables. Comme Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et dans une moindre mesure Anne Hidalgo. Il y a, de l'autre, celles et ceux qui ne jurent que par le nucléaire, comme Éric Zemmour, mais aussi Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et puis, il y a une troisième voie, celle d'un mix énergétique, défendu par Emmanuel Macron et Fabien Roussel. Nous espérons que cette playlist vous aura permis de mieux appréhender la question du nucléaire. Et, pourquoi pas, d'éclairer votre choix.
Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes, le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité.